podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Retour dans les années 80 aujourd'hui avec notre dossier, puisque l'on parle de Quad 9 Doctor, alias Growing Pains, une série télévisée américaine en 166 épisodes de 24 minutes, créée par Neil Marlène. C'est diffusée dès 1985 jusqu'en 1992 sur le réseau ABC. En France, la série a été diffusée dès 87 sur Antenne 2. Le synopsis, eh bien, c'est simplement une série qui met en scène la famille Seaver, qui habite dans la banlieue de New York et dont le père est psychiatre et la mère journaliste. On suit l'éducation parfois difficile de leurs enfants. Au casting, Kirk Cameron qui jouait Mike Seaver, Alan Tick qui jouait le docteur Jason Seaver, Joanna Kearns, Maggie Malone Seaver, Jeremy Miller, Ben Seaver et enfin Tracy Gold qui jouait Carol Seaver. On se souvient aussi surtout de la première apparition assez remarquée d'un certain Leonardo DiCaprio qui a tenu le rôle de Luke Brower, un jeune de la rue rencontré par Mike dans la dernière saison et qui est accueilli par la famille Seaver. Cette sitcom a par ailleurs donné lieu à une série dérivée intitulée « Un toit pour 10 ». Deux autres téléfilms ont été produits 8 ans après la fin de la série, et notamment celui qui voyait les Seavers se retrouver à Washington pour fêter les 30 ans de mariage de Jason et Maggie. Pour en parler aujourd'hui avec nous et pour analyser cette série, Sarah Sepulcre, et pour en discuter, Nathanaël Picasse.
Bonjour à tous.
Et comme tu l'as dit, Quad 9 Doctor, c'est une sitcom familiale et on a carrément tout dit quand on a dit ça.
C'est rare d'avoir une sitcom qui n'est pas familiale en fait finalement. À part Friends qui est arrivé, qui a un peu bousculé tout ça, avant c'était
à l'époque,
que
c'était surtout
familial.
Familial, effectivement.
En effet, et on peut carrément dire que cette série-là, avec 2-3 autres, représente carrément le prototype ou l'archétype de la sitcom de l'époque, qui effectivement n'était que familiale. Alors il y a plein de sitcoms que nous on n'a pas bien connus, hein, mais il y avait Madame est servie, il y avait La fête à la maison, il y avait Un toit pour 10, qui étaient effectivement des séries
Bill
qui
Cosby
fonctionnaient.
Aussi.
Oui, c'est vrai, tiens, maintenant que tu le dis, et ce sont des séries qui fonctionnent sur le même principe d'une famille, d'une maison, parce que c'est en gros ça, hein, une sitcom familiale et une sitcom en général, c'est quelques décors bien choisis. Là, dans ce cas-là, c'est souvent la maison familiale avec 2-3 décors extérieurs et des personnages totalement récurrents et des gags qui sont eux aussi récurrents. Dans Quad 9 Doctor, c'est principalement les chamailleries entre les enfants.
Récurrents aussi dans toutes les séries, parce que je veux dire, c'est les mêmes gags qui reviennent dans toutes les séries, hein, quasiment. C'est un quiproquo, c'est...
On a en général la famille et puis un personnage extérieur qui joue un peu le poil à gratter. On se souvient notamment de Kimmy Gibbler dans La fête à la maison ou de Steve Urkel dans La vie de famille.
Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de protagoniste extérieur, en tout cas dans les premières années. Les protagonistes récurrents étant nécessaires pour jouer sur les gags.
Mais celui qui joue le rôle de poil à gratter, c'est quand même le plus jeune des enfants, qui sera d'ailleurs remplacé par la petite dernière de la famille quelques années plus tard.
Oui, tout à fait. Mais donc les enfants, les uns face aux autres, sont une première partie des gags de cette série, c'est-à-dire qu'ils ne se supportent pas et ils ne cessent de chamailler. Et les parents, eux-mêmes, sont porteurs de gags identiques à ceux des enfants, puisqu'en fait, ils ne cessent de chamailler aussi. Et puis alors, il y a effectivement les gags des parents vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire toutes les valeurs familiales de l'éducation, etc., l'école, les mauvais comportements, puisque dans les enfants, il y en a quand même 2 sur 3 qui sont des garnements. Et donc, tout ça fonctionne autour de cette famille principalement. Alors, je vous disais, c'est aussi caractérisé par une maison et certains lieux récurrents. Au départ, c'est principalement tout ce qui est au rez-de-chaussée, avec 1 ou 2 chambres, et puis au fur et à mesure que la série avance, on multiplie le nombre de chambres, et donc on rentre de plus en plus dans les chambres les uns des autres, c'est-à-dire qu'au départ on a le salon et la cuisine, et puis après on monte dans la chambre de Carole, et puis de Ben.
C'est chouette d'avoir une maison extensible comme ça, on rajoute des ailes comme ça de temps en temps.
Ah oui, mais on rajoute même carrément, puisqu'à un moment Mike veut prendre son indépendance, et on lui fait carrément son petit appartement au-dessus du garage.
C'est un grand classique, ça.
Voilà. Oui, mais j'aime bien, c'est indépendance, mais au-dessus du garage, donc c'est bien, t'es toujours quand même dans la famille, quoi.
Alors, en parlant de ça, c'est intéressant parce que ça met aussi le doigt sur un phénomène important de ces sitcoms familiales et de Quad 9 Doctor, c'est le vieillissement des personnages. Et effectivement, je pense que les personnages phares dans ce genre de série sont principalement les enfants et pas les parents. Et on les voit grandir pendant 7 ans, c'est-à-dire que Mike passe d'un tout jeune adolescent à un jeune adulte, carrément, et donc prend son indépendance tout en ne l'apprenant pas tant que ça, parce qu'il faut quand même qu'il reste présent. C'est pareil pour Carole, qui va finir à l'université, et puis Benjamin, qui effectivement passe de l'enfant à l'adolescent. Et donc, il y a la nécessité, comme tu disais, d'apporter un autre enfant qui porte des valeurs plus enfantines, et c'est pour ça qu'on fait naître un quatrième rejeton.
Oui, c'est l'intérêt de renouveler le cheptel, en fait. On a vu ça aussi dans La Fête à la Maison, où on a régulièrement des naissances, dans tout ce type de sitcom, où on a toujours un plus petit, style Michel dans La Fête à la Maison, pour attendrir le téléspectateur et le chaland.
Et qu'on entende les fameux « Oh !» du public.
Mais c'est aussi important parce que effectivement, ça permet de faire vieillir ces personnages avec le public. Et donc, moi, je me souviens qu'effectivement, c'est plutôt Carole qui m'intéressait parce que j'avais pas son âge, mais que je l'ai vu grandir et que ça m'intéressait, un peu comme les Fingals dans La Petite Maison dans la Prairie.
C'est là qu'on voit aussi l'avantage, par exemple, d'une série comme Les Simpsons, c'est qu'ils permettent de garder en fait les personnages à l'âge où on les a rencontrés pour la première fois, et donc de pouvoir renouveler et d'avoir toujours le même souffle, entre guillemets, que des débuts, et pas avoir le problème du mon acteur vieillit, donc il va falloir que je m'adapte au fait que mon acteur vieillit.
On a parlé beaucoup des enfants et on a parlé beaucoup des gags récurrents. Je vous propose d'entendre un moment où ces enfants se disputent, parce que c'est vraiment, à mon avis, des moments phares de ces épisodes. Donc effectivement, vous avez Mike, vous avez Carole et vous avez Benjamin. Benjamin qui, on le verra après cet extrait, joue un peu le rôle du bêta de service, en tout cas dans la première saison. Et Mike et Carole qui ne peuvent s'empêcher de s'envoyer des vannes en l'air. Ils vont discuter en fait du bébé qui va bientôt apparaître. Et Ben se rend compte que ben, il sera peut-être plus le petit dernier pendant longtemps encore.
Voilà, c'est le pire jour entier sans école. Réunion des professeurs, égal jour en moins de corvée.
Égal jour de flemme.
À ton avis, il parle de quoi pendant tout ce temps?
De toi, Ben.
De moi? Bonjour.
Tu ramènes tes livres à table. T'es vraiment faillotte, ma vieille.
Sache pour ta gouverne que ceci est un bouquin de prénoms. Je prépare une liste de suggestions pour ma future sœur.
Quelle sœur? Carole, tu perds ton temps, ça sera sûrement un garçon.
Oui, et ben si c'est le cas, il s'appellera comme il voudra. Moi, je serai partie.
Tu le promets? Eh, Benny, mon vieux, relax. Je rigolais, c'était une blague. Les profs ne parleront pas de toi.
Oh, qu'est-ce que ce sera chouette. J'y mettrai des petites robes. Je l'emmènerai se promener.
Et il te bavera dessus.
Un bébé, ça fait ça?
Et c'est pas tout, ils sont pleins de ressources.
Moi aussi, je bavais quand j'étais bébé.
Oui, il est toujours sur moi.
Bien joué, petit frère.
Vous pouvez rire, mais quand le bébé sera là, vous avez intérêt à changer d'attitude. Rabat-joie. Tu prends ça comme ça maintenant, mais quand maman ne prendra plus la défense du bébé, tu t'en mordras les doigts. De quel bébé tu parles?
Tu le sais très bien. Oh, Jason, sois doux avec Ben, c'est encore un bébé.
Eh oui, mon vieux, d'ailleurs, maman n'a pas tort, tu es encore comme un gros bébé. Fais gaffe à ce que tu dis.
Ben, ne joue pas avec la nourriture, tu n'es plus un bébé.
Ton père a raison, Ben.
Prends quelque chose de consistant, tu manges pour deux.
Comme Ben.
Merci, Jason. Bon, ben les enfants, au revoir, passez une bonne journée.
Mais surtout, n'oublie pas qu'aujourd'hui...
Oui, je parlerai au patron, je te l'ai promis, tu veux que je l'écrive avec mon sang? Désolée, je m'en vais.
On remarque clairement un triangle, pas vraiment un triangle amoureux, mais un triangle filial. Finalement, c'est toujours le même qui est le bouc émissaire des histoires.
Mais c'est souvent le petit, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'associent les uns les autres. Alors, parfois, c'est Ben et Mike. Parfois, c'est Mike et Carole. Parfois, c'est Carole et Ben. Mais ça ne reste jamais comme ça très longtemps. Le but du jeu étant effectivement de chamailler le plus possible. Et donc, il y a toujours des retournements de situation qui font que c'est chacun pour soi, finalement, entre ces trois enfants. Et effectivement, c'est souvent le plus petit qui s'en prend plein la figure. Il faut quand même avouer, en effet. Ces trois enfants, ben, commençons par eux, je vous comptais vous parler des personnages, puisqu'on est chez les enfants, allons-y. Mike, si vous vous souvenez, joue le rôle du bellâtre de service. Sa fonction était, en tant qu'adolescent, probablement d'attirer les téléspectatrices. C'est le garnement typique, celui qui ne fait rien à l'école, qui se prend des corrections constamment, ou qui doit rester en retenue, etc., etc. Mike, qui va évoluer vers un jeune adulte. Si vous vous souvenez, il devient comédien et il étudie le théâtre, et il a d'ailleurs son succès au fur et à mesure des épisodes. Et il va aussi s'assagir, et il va petit à petit arrêter d'avoir une nouvelle copine à chaque épisode pour se marier marie avec Kate, qui est aussi comédienne, une brune qu'il rencontre dans ses cours.
Si mes souvenirs sont bons, c'est celui qui a la coupe de cheveux la plus typique des années 80.
Mon Dieu, c'est tout dire.
C'est pas difficile, en effet. Ce qui est drôle, c'est que l'acteur Kirk Cameron est entré très fort en religion au fur et à mesure des années, et alors qu'il était normalement le personnage le plus immoral, entre guillemets, c'est de plus en plus insurgé contre le côté immoral, justement, de son personnage, qui fait que son personnage est assagi, probablement sous l'impulsion du comédien lui-même, qui refusait de jouer certaines scènes et qui a fait réécrire des épisodes entiers pour coller à sa nouvelle vertu religieuse.
Depuis, il a réalisé 7 à la maison. Non, je rigole.
C'est ça, quelle horreur. Non, mais surtout, quand tu dis immoral, c'est pas non plus, à mon avis, la sauvagerie extrême. Je veux dire, on n'est pas dans Nip Tuck non plus, quand même. Hein.
Oui, mais c'est en dit long, justement, sur sa bigoterie du moment. Lui-même, après, s'est excusé, ce qui me permet d'utiliser ce mot assez fort de bigoterie, mais il a, par exemple, refusé de jouer une scène où il était au lit avec une autre comédienne, et où on se rendait compte que c'était pas du tout une scène d'amour ou quoi, mais c'était une scène sur la scène. Donc, ils étaient en train de répéter, et ils étaient simplement assis dans le lit. Il a refusé de jouer cette scène en disant que c'était immoral pour les adolescents qui allaient regarder.
Donc, on peut
imaginer qu'ils ont dû, les scénaristes ont dû s'arracher les cheveux, effectivement, sur les épisodes. Ça explique peut-être pourquoi il devient aussi sage à la fin.
On notera aussi, par ailleurs, que Kirk Cameron, c'est le frère de Candace Cameron, qui était la célèbre DJ de La Fête à la Maison.
Ça montre bien qu'on est toujours dans le même substrat, finalement, de ces sitcoms des années 80. Alors, la sœur, c'est évidemment l'inverse. Elle est sérieuse, elle est intelligente, elle est sage. Carol joue donc la jeune étudiante typique, quoique pas tant que ça, parce qu'elle sait aussi très bien rendre les coups à son frère, et elle n'est pas la dernière pour faire des coups dans le dos d'ailleurs. C'est principalement vis-à-vis de Mike que sa hargne se déverse, Ben savait encore. Elle aussi va petit à petit s'assagir et terminer à l'université, voire mariée, si je me souviens bien. Il faut savoir là aussi que un gag récurrent autour de Carol, c'était son embonpoint. On ne cessait de la traiter de grosse, alors qu'elle n'est pas du tout, hein, quand on réfléchit et quand on s'en souvient. Et ça a eu un énorme problème sur Tracy Gold, parce qu'elle-même souffrait déjà un peu de troubles alimentaires à l'époque, et ça n'a rien arrangé. Sa disparition progressive dans les dernières saisons est due au fait qu'elle a dû entrer en clinique pour une anorexie assez forte. Et dans les téléfilms de Réunion, quelques années après, elle a pu jouer parce qu'elle est sortie de l'hôpital juste pour jouer. Donc vous imaginez le poids que ça a pu avoir sur cette actrice. Il paraît que maintenant ça va, je vous rassure.
Le terme poids que ça a eu sur cette actrice est très bien choisi. Je voulais juste dire ça.
C'est très bien préparé, cette
mais,
émission.
Oui, c'est incroyable. Non, mais c'est fou à quel point, en fait, les acteurs, effectivement, dans cette sitcom, il y avait un lien étroit avec la réalité, avec l'un qui fait modifier carrément les scénarios parce qu'il est complètement bigot, et l'autre où c'est plutôt la fiction qui a un effet sur la réalité, quand même.
Ça vient peut-être aussi du problème qu'il y a dans cette histoire de jeunes acteurs et que leur vie s'identifie à celle qu'ils ont à l'écran.
Il y a de ça, à mon avis, ouais. Alors le troisième, c'est Benjamin Seaver, qui est donc le jeune dernier, en tout cas pendant tout un temps, qui admire son grand frère et qui fait tout pour lui ressembler.
C'est celui avec les joues qu'on a envie de pincer.
C'est celui-là, qui est déguisé en chat ou en lapin dans le générique, oui. Qui fait tout pour ne pas ressembler à sa grande sœur, donc voilà. Il va d'ailleurs évoluer un peu comme Mike, puisqu'il va devenir un garnement. Il n'aura jamais l'envergure que Mike pouvait avoir, ni dans les bêtises à l'école, ni dans ses relations avec les filles, mais c'est petit à petit vers ça qu'il va évoluer, et il va petit à petit perdre son côté un peu benêt qu'il avait quand il était petit, ça il faut bien l'avouer. On le quittera quand il sera jeune aussi, sur la fin de l'adolescence et sur le début de ses études, dans les téléfilms de Réunion, il est promoteur immobilier. Un homme qui a réussi. Et la dernière, c'est Chrissy. Chrissy qui apparaît dans les toutes dernières saisons, qui grandit du jour au lendemain.
En une nuit, comme oui. Ça.
En un été, les producteurs ont décidé que c'était mieux d'avoir une Chrissy de 6 ans, et donc elle a vieilli de quelques années d'un coup.
Et donc, comme je le disais, c'est un peu elle qui reprend le rôle de Ben à un moment où celui-ci devient trop grand pour être le gugus de service.
Et avec une petite particularité, que c'était une petite peste, si je me souviens bien. Parce que Ben n'était pas, faut quand même avouer. Alors là, je vous parle beaucoup des enfants, il y avait aussi les parents. C'est vrai que moi, il me semble avoir un rôle un peu secondaire par rapport aux enfants, mais eux aussi sont des grands enfants. C'est-à-dire que un des gags récurrents entre ces deux-là, c'est qu'ils se cassent l'un l'autre continuellement. Je pense à un épisode où ils doivent surveiller le bal de fin d'année du lycée où sont Mike et Carol, et où en fait le DJ a un problème au dos et donc doit s'en aller, et donc ils doivent assurer la musique. Et en fait, c'est Maggie qui prend la direction de cette sono, et puis Jason n'arrête pas de venir près d'elle pour lui dire « Non, finalement, c'est trop dur, tu ne le fais pas bien, je devrais le faire. » Et donc, ils se cassent l'un l'autre pendant tout l'épisode pour s'adorer à la fin, mais c'est une vision un peu particulière du couple quand on y réfléchit bien. Ce qui était intéressant aussi, c'est que donc Jason, il était psychiatre, et quand on voit comment il éduque ses enfants, je ne suis pas sûre que ça soit un exemple à suivre. Et elle était mère au foyer, et puis petit à petit, elle sort du foyer pour redevenir journaliste dans une télévision locale. Je vous parlerai de ce trait-là dans la dernière partie, ça me semble assez intéressant. Un extrait un peu particulier, c'est le tout début d'un épisode où Maggie est enceinte, et elle rêve qu'elle prend sa douche, et qu'au moment où elle sort de sa douche, elle n'est plus enceinte, et que donc le fait qu'elle ait pris sa douche change du tout au tout ce qu'elle était pendant 4 mois. Et on voit que ça la perturbe complètement, alors que Jason, ça la perturbe pas. C'était un rêve, mais ça m'a semblé une critique assez forte de la douche de Patrick Duffy dans Dallas, puisqu'on sait que du jour au lendemain, on ressuscite Bobby Ewing, et qu'en fait, il était dans sa douche, et ça me semble... Alors c'est ça l'intérêt aussi parfois des sitcoms, c'est de pouvoir se moquer de certaines choses bien senties, et de récupérer tout l'air du temps.
Non, c'est à toi de donner le sein au bébé, Jason. Je vais le travailler.
Maggie ?
Je n'ai plus besoin de toi, je me suis déjà brossé le dos toute seule.
Chérie, tu n'es pas raisonnable, il est tard.
Stop ! Salut. Bon, on va la refaire, hein. Il faut que vous y mettiez plus de conviction, hein, qu'on sente la confusion. Bon, on y va. C'est parti, 5 secondes, 4, 3, 2, top !
Je le connais. Et toutes ces caméras-là, qu'est-ce qu'elles font dans notre salle de bain ?
Ah, une bonne douche, rien de tel.
Mais tu n'es pas enceinte ?
Qu'est-ce qui te prend ? Bien sûr que non.
Ben, tu l'étais encore hier de plus de 4 mois, je n'ai pas rêvé quand même.
Excuse-moi chérie, tu vas gâcher mon plan.
Je t'assure que tu étais enceinte de plus de 4 mois en rentrant dans la douche et tu ne l'es plus en ressortant.
Oh mon amour, c'est ton imagination qui te travaille.
Impossible chérie, ces choses-là n'arrivent que dans les films. Les mauvais films.
Regarde-moi ça. Mais j'ai l'air de quoi ? Je veux que la production vire cette coiffeuse, même si elle a une famille nombreuse à élever. Oh, Jason, Jason,
quoi,
la salle de bain.
Quoi?
Regarde. Oh, je suis bien enceinte.
Ben oui, depuis 4 mois, j'étais là, je suis témoin.
Oh, c'est mieux qu'un cauchemar.
Merci.
Non, pas ça, je viens de faire un rêve.
Ah oui, quel rêve?
Je prenais une douche et en ressortant, je n'étais plus enceinte. Les 4 mois qui viennent de passer étaient anéantis, tout avait changé.
Oh, tu as dû voir trop de films. De mauvais films.
Non, pas si mauvais.
La série va donc durer jusqu'en 92. Déjà, elle était dans le déclin dans les audiences. Elle passe du mercredi au samedi et le changement d'horaire l'a fait vraiment très fort péricliter.
Elle... même Léo n'a pas réussi
oui,
à sauver.
Oui, parce que la raison de la présence de Leonardo, c'était véritablement de relancer des intrigues au moment où Mike part et quitte la famille. Donc, d'y adjoindre un nouveau garnement. C'est un garçon des rues, Luke Brower, et donc il est le caractère un peu méchant, mais qui très vite, effectivement, oui, la générosité de la famille Seaver.
C'était un garçon des rues, voilà quoi, il a volé une salade dans un étal.
Quel mauvais garçon. Non, je voulais réagir sur le fait qu'il y a eu un changement d'horaire, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le samedi, c'est pas du tout un bon jour pour les audiences, contrairement à ici. Passer à quelque chose au samedi, c'est limite le condamner déjà directement, en fait.
Oui, hein. Et elle a été changée avec la fête à la maison, où Madame est servie, je ne suis plus sûre maintenant. Et les deux, en fait, se sont vraiment... Vautré cette année-là. Tous les petits éléments qu'on essaie de mettre en place pour ranimer un peu la flamme ne marchent pas et la série se termine. Elle se termine pas tout à fait parce qu'il y aura deux téléfilms de réunion. Le premier en 2000 qui s'appelait, en anglais en tout cas, mais je pense pareil en français, Quoi de neuf docteur, le téléfilm ou le film, où on les retrouve. Maggie est devenue secrétaire de presse. Jason est toujours psychiatre et commence à écrire des nouvelles. Mike travaille dans la publicité. Il est marié avec Kate et il a 3 enfants. Carol travaille à Wall Street, évidemment. Et Ben a essayé quelques startups sans que ça ne réussisse vraiment très bien. Chrissy est toujours dans les études, mais elle fume à l'école. Donc vous voyez que c'est vraiment le personnage qui reprend un peu toutes les thématiques des anciens enfants.
Mike n'est pas devenu acteur donc finalement, parce qu'il travaille dans la pub,
oui.
Si j'ai bien compris.
Mike évolue vers la publicité. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Maggie annonce qu'elle désire revenir habiter à Long Island puisqu'ils étaient retournés à New York à la fin de la série. En fait, ils déménagent. Le second téléfilm est en 2004 et c'est le retour des Seavers. Alors là, en fait, toute la famille est réunie pour la vente de la maison puisque Jason et Maggie aimeraient bien la revendre, histoire soit d'acheter d'acheter une villa en Italie, ça c'est l'option Maggie, soit d'acheter un camping-car et de prendre la route, ça c'est l'option Jason. Ben est chargé de la vente puisque depuis il est devenu agent immobilier. Mike et Carol font tout pour échouer la vente parce qu'ils aimeraient bien garder la maison dans la famille. Carol à l'époque est enceinte de son premier enfant et Mike lui travaille à Tokyo maintenant. Vous voyez que quand même être mauvais garçon ça mène à beaucoup. Chrissy elle appartient à un groupe de rock donc elle garde encore les thématiques qui est liée aux anciens enfants.
Et on n'a pas de nouvelles de Luc alors.
Et pas de nouvelles de Luc donc ça se demandait. Je crois que Leonardo avait mieux à faire.
Je crois qu'il a coulé sur un grand bateau qui s'est crashé sur un iceberg depuis.
Oui, en 2004 et en 2000 il était carrément beaucoup plus loin que le Titanic.
Ce qui est drôle d'ailleurs en parlant de Leonardo c'est que c'est le personnage et c'est l'acteur qui avait le moins d'importance dans cette série qui est aujourd'hui est le plus connu. Tous les autres n'ont pas fait grand chose, faut quand même avouer, depuis Quoi de Neuf Docteur.
Les gens qui n'ont pas justement connu la série Quoi de Neuf Docteur à l'époque de sa première diffusion parlent de Quoi de Neuf Docteur justement maintenant, ils parlent la série de Leonardo DiCaprio et tout le reste alors que c'est une saison.
Ouais, enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette série ? Eh bien, on peut en penser ce qu'on en pense des sitcoms années 80 en général. C'est-à-dire que, bah oui, c'est bien, mais ça manque un peu de souffle. Et surtout, moi, ce qui me marque avec maintenant que plusieurs années sont passées, c'est que c'est très, très moralisateur. C'est probablement dû à l'influence de l'acteur, comme on a dit tout à l'heure. Mais même au début, c'est toujours un happy end à la fin des épisodes et tout le monde s'adore et tout le monde est gentil. Comme tu le disais, on est très loin des familles décomposées et des familles un peu trash, telles que Roseanne ou telles que Marie et deux enfants. On est vraiment dans une valeur familiale de base. Une autre critique qu'on peut faire, mais ça, ils n'en peuvent rien, c'est le doublage. Alors là, c'est catastrophique. On en avait déjà parlé, je pense, quand on a parlé de La Fête à la Maison. C'est pas drôle du tout. Certains gags tombent complètement à plat.
On comprend d'ailleurs pas pourquoi il y a certains rires préenregistrés qui apparaissent à certains moments, puisque la situation n'est même pas drôle.
C'est dire. Par contre, tout n'est pas acheté. Il y a un truc qui me semble intéressant dans cette sitcom, c'est le retournement de situation des hommes et des femmes. C'est-à-dire que au départ, Jason est psychiatre à l'extérieur et Maggie est femme au foyer. Et puis elle décide de reprendre sa vie de femme active parce que les enfants sont grands et donc de redevenir journaliste comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Jason décide de devenir psychiatre mais chez lui. Et donc c'est Jason qui est à la maison et qui accueille les enfants quand ils rentrent de l'école, etc. etc. Et il y a plusieurs épisodes d'ailleurs au moment du changement qui sont centrés sur le mal-être de Jason par rapport au fait où il est un homme au foyer. Alors, il travaille mais il est quand même un homme au foyer. Et ça me semble intéressant. C'est vrai que jusque là, on avait quand même des schémas assez canoniques de couple. Ça commence à se casser avec Madame est servie, où là aussi c'est un homme au foyer, et avec cette série-là. Et je pense qu'après on passera à des choses bien plus compliquées. Mais Maggie a pendant tout un temps réellement porté ces questions de la femme qui travaille, la femme et la double journée, la femme enceinte et qui doit l'annoncer à son patron, etc. etc.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.